d'écouter RFI, les 8h30 à Paris, une heure de moins à Bangui. L'information africaine vous est présentée par Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. Et cette question pour débuter, quel avenir pour le Gabon après la victoire annoncée de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle? Victoire qui reste à confirmer, mais tout le monde pense désormais à la suite. Visiblement, nous serons à Libreville dans quelques instants. La RDC ensuite et ses violences qui secouent certaines provinces de l'Ouest depuis près de 3 ans. Désormais, les miliciens Mobondo font régner la terreur eux aussi. 800 millions d'euros récoltés hier à Londres à l'occasion d'une conférence internationale pour venir en aide aux Soudanais. La guerre au Soudan est entrée hier dans sa 3e année. La scène politique du Cameroun. En cette année présidentielle, un conseiller municipal membre du RDPC saisit la justice administrative pour réclamer la tenue d'un congrès au sein du parti au pouvoir. Une plongée dans l'histoire avec une visite au musée du Quai Branly à Paris. Paris, qui a travaillé avec des experts d'Afrique de l'Ouest pour retracer l'histoire, parfois sombre, il faut le dire, de ses collections. Il a demandé aux Gabonais de se remettre au travail dès lundi pour bâtir le Gabon nouveau. Après sa très large victoire annoncée à l'élection présidentielle et avant même la confirmation par la Cour constitutionnelle, la scène politique gabonaise semble déjà se préparer à l'après aux côtés de Brice Clotaire Oligui Nguema. Préparer l'après, c'est-à-dire la mise en place de la 5e République, des nominations aux nouveaux postes, mais aussi l'organisation des élections législatives. La transition n'est pas totalement terminée. François Mazé est celui qui sera bientôt investi, sauf immense surprise, au palais du bord de mer a tout cela bien en tête.
Pas encore président de plein exercice, Brice Clotaire Oligui Nguema a déjà prévenu son administration, elle ne va pas chômer. La mise en place de la 5e République va selon lui demander l'adoption de plus de 1000 textes normatifs dans la première année. Conséquence de la suppression de la primature, les services de la présidence vont récupérer de nouvelles prérogatives. Après son intronisation, Brice Clotaire Oligui Nguema devra nommer 2 vice-présidents, le premier à la fonction plutôt protocolaire et le numéro 2 de l'État, le second en charge du gouvernement devra à la fois être un politique de poids et un technicien de l'administration. Parmi les textes urgents, la loi sur les partis politiques est attendue, de même que le découpage électoral en vue des élections locales et législatives qui pourraient avoir lieu en août et même plus tôt selon certains interlocuteurs. C'est en prévision de ces échéances que la plateforme du président, le Rassemblement des bâtisseurs, va se muer en parti politique samedi. Il n'aura pas pour objectif d'engloutir les composantes qui ont soutenu l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema, a prévenu son coordonnateur, Ange-Kevin Zigou, mais de prendre une place centrale, d'être la matrice politique d'une future majorité à l'Assemblée. François Mazé, Libreville, RFI.
En RDC, quand les regards et les projecteurs sont braqués sur la guerre qui déchire l'est du pays, dans le même temps, des violences plus discrètes mais bien réelles, elles aussi frappent depuis 3 ans maintenant plusieurs provinces de l'ouest, Maïndombe, Kwango et Kwilu, des provinces voisines de celle de Kinshasa, théâtre à l'origine de ce qui était un conflit communautaire mais qui a mué en terrain d'activité d'une milice locale. Il s'agit des Mobondo, Polynazidi. Ils terrorisent littéralement la population à coups d'enlèvement notamment.
Le 12 avril dernier, ce sont 2 paysans qui ont été enlevés dans leur champ près de la localité de Menko, dans le Maïdombe. L'armée a alors mis en place des patrouilles pour les retrouver et lundi soir, un raid a été mené sur un campement de miliciens. Les FARDC disent avoir capturé un de leurs chefs, le colonel autoproclamé Pembe, ainsi que son garde du corps. Sur la route du retour, les soldats congolais ont à leur tour été pris pour cible, selon le capitaine Anthony, porte-parole de l'armée dans le secteur.
Au cours de l'air transfert vers l'état-major de l'armée. Les soldats congolais sont tombés dans une embuscade tendue par une autre faction du groupe rebelle. Des violents affrontements ont éclaté entre les assaillants et les FARDC. Au cours des échanges de tirs, le chef rebelle capturé a été mortellement atteint par balle. Son garde du corps, quant à lui, a été conduit sain et sauf à l'état-major pour interrogatoire.
Les 2 paysans enlevés n'ont eux pas encore été retrouvés, déplore le capitaine Anthony, qui ajoute que souvent, les otages sont enrôlés de force dans les rangs des miliciens. Polynazidi Kinshasa, RFI.
Ça, c'est peut-être un moyen pour le continent de se mettre à l'abri des guerres commerciales extérieures. La ZLECAF, la fameuse zone de libre-échange continentale, on l'évoquait hier matin sur RFI dans un dossier Afrique économie que vous pouvez retrouver sur Internet. Eh bien, la RDC s'y prépare justement activement. Elle l'a affirmé à l'occasion de la 16e réunion des ministres du commerce de cette ZLECAF, réunion qui était organisée hier à Kinshasa. Le gouvernement congolais dit ainsi avoir soumis une liste de plus de 6000 produits destinés destinés à être échangés donc sur le continent. D'autres chiffres qui donnent le vertige, et on ne parle pas d'économie ici, mais bien du bilan humain de la guerre au Soudan qui est entrée dans sa troisième année hier, avec des milliers et des milliers de morts, 13 millions de personnes contraintes de fuir leur foyer, près de 25 millions de Soudanais en situation d'insécurité alimentaire aiguë, et un autre chiffre encore, le dernier, pour répondre lui à cette crise humanitaire, 800 millions d'euros collectés hier à Londres avec une conférence internationale qui a réuni une vingtaine de pays et d'organisations. Sur place, les participants ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et à tout mettre en œuvre pour éviter une partition du Soudan, au moment même où le général Emet Tee à la tête des FSR annonçait la mise en place d'un gouvernement parallèle. À Londres, compte rendu de ce rendez-vous avec Emeline Vin.
Un chiffre pour résumer la conférence de Londres, plus de 800 millions d'euros. C'est la somme promise par le Royaume-Uni, l'Union européenne et ses membres et les autres participants pour soutenir l'assistance humanitaire au Soudan, principalement par des colis alimentaires et du soutien pour les victimes de violences sexuelles. L'aide financière, c'était le premier objectif de cette réunion internationale, le plus facilement mesurable aussi. Deuxième but, remettre le Soudan dans l'actualité. Le chef de la diplomatie britannique a invité les participants à ne pas se résigner à un conflit inévitable. Et c'était le dernier objectif, faire progresser le processus de paix. Alors personne ne s'attendait à un accord de cessez-le-feu dès ce mardi. D'ailleurs, ni l'État soudanais, ni les paramilitaires des FSR n'étaient représentés. Mais des partenaires de chacune des parties avaient été invités. Par exemple, l'Égypte, le Kenya ou encore les Émirats arabes unis soupçonnés d'armer les FSR. Les partenaires occidentaux devaient saisir l'occasion pour faire preuve de diplomatie patiente, selon la formule du ministre britannique des Affaires étrangères, qui espère que le conflit aura évolué vers la paix d'ici un an. Emeline Van Londres, RFI.
Un pas de plus dans la crise diplomatique renouvelée entre l'Algérie et la France. Après l'expulsion de 12 agents consulaires français par l'Algérie ce week-end, Paris a répliqué hier avec une mesure identique et le rappel de son ambassadeur. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, appelait tout de même ce matin à la reprise prochaine d'un dialogue franc, lucide, mais exigeant avec les autorités algériennes. Sur la scène politique du Cameroun, contribuer au changement de l'intérieur. Voilà l'approche d'un conseiller municipal qui se trouve également être un militant du RDPC, le parti du président Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans et qui pourrait bien briguer un huitième mandat lors de la présidentielle attendue en octobre prochain. Mais ce conseiller municipal, lui, ne l'entend manifestement pas de cette oreille. Il s'appelle Léon Teller Onana. Et en effet, il a saisi la justice administrative pour réclamer notamment la tenue d'un congrès au sein du RDPC. Précision, Amélie Tulé.
Selon les statuts du parti, le congrès doit se tenir tous les 5 ans. Il élit le président national et les membres du comité central. Or, le dernier congrès du RDPC remonte à 2011. Pour Léon Teller Onana, le mandat de ses dirigeants est donc expiré.
Notre parti n'a pas à sa tête un président national qui peut également être candidat à l'élection présidentielle. Et le comité central qui est là est un comité qui usurpe tout simplement le poste. J'appartiens à une génération qui ne souhaiterait plus que les choses soient comme ça. On ne peut pas être dans un parti où tout est figé autour d'un individu. On n'a pas besoin d'avoir 20 ans au sein du RDPC pour apporter des réformes.
Mais pour la direction du parti, le militant fait une mauvaise interprétation des textes. Le bureau politique peut prolonger les délais. Et pour le communicant du RDPC, Patrick Rifoé, la démarche de Léon Teller Onana n'a aucune chance d'aboutir.
C'est la démarche d'un loup solitaire. Ça ressemble davantage à un suicide politique qu'autre chose. Quand sa procédure va faire chier, il y aura très peu de gens pour l'accompagner et je doute qu'il puisse être bien accueilli dans une autre formation politique s'il venait à être exclu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce qui n'est pas à exclure.
En attendant, les conseils juridiques de Léon Teller Onana et du parti de Paul Biya ont rendez-vous demain devant le tribunal administratif.
Amélie Tulé, il est annoncé comme le plus grand barrage du Congo-Brazzaville. Les travaux devaient commencer en janvier dernier à Sunda, dans le sud du pays, mais pour l'heure, toujours aucun coup de pelleteuse sur place, le chantier n'a tout simplement pas débuté. Pourtant, cela ne devrait plus tarder désormais, à en croire en tout cas les mots hier du porte-parole du gouvernement congolais qui était face à la presse, sans donner beaucoup plus de précisions. Mais Loïcia Martial l'a écouté pour nous.
Le ministre Thierry Mungala a profité de la quinzaine du gouvernement pour annoncer que le début des travaux du barrage de Sunda n'interviendra pas immédiatement, bien que le besoin se fasse sentir en cette période marquée par les coupures répétées de courant, notamment dans les grandes villes. Thierry Mungala.
Je crois que ces travaux ne manqueront pas de débuter dans les tout prochains temps. comme je l'ai dit, la science gouvernementale n'est pas une science exacte.
Le ministre a reconnu la mauvaise qualité actuelle de l'alimentation énergétique, ce qui nécessite la construction d'un nouveau barrage et la réforme du secteur dans son ensemble.
Je crois que ce qui arrive ces dernières semaines, ces derniers mois, quant à la qualité de l'alimentation en énergie électrique, c'est-à-dire la mauvaise qualité, c'est-à-dire les désagréments qui sont subis par toute notre population, notamment en zone urbaine, montre et prouve l'importance, la nécessité de réformer la gestion du secteur.
Le Congo produit actuellement 720 MW, dont une bonne partie se perd en raison de la mauvaise qualité du réseau. Sunda devrait produire 600 MW supplémentaires pour un coût des travaux évalué à 1300 milliards de francs CFA. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Une plongée dans l'histoire à présent pour notre dossier du jour. L'histoire parfois sombre, mais riche de mille et un trésors culturels. Et pour retracer le parcours des objets, notamment recueillis lors de la célèbre mission ethnographique française Dakar-Djibouti entre 1931 et 1933, eh bien le musée du Quai Branly à Paris a travaillé près de 100 ans plus tard avec des experts venus du Mali, du Bénin, du Cameroun, du Sénégal, de l'Éthiopie et de Djibouti, pour mieux identifier tous ces objets et surtout leurs conditions de collecte souvent effectuées sous contrainte, Isabelle Chenu.
C'est une exposition passionnante réalisée entre spécialistes africains et français qui éclaire d'un jour nouveau l'origine et les conditions d'acquisition de milliers d'objets aujourd'hui détenus par le musée du Quai Branly à Paris. Des objets du quotidien, mais aussi des objets sacrés dédiés aux rituels, aux initiations, des objets de pouvoir rapportés il y a près d'un siècle par la mission ethnographique Dakar-Djibouti. Dès 1934, dans son livre « L'Afrique fantôme », l'écrivain Michel Léris exprimait son amertume d'avoir participé à une véritable razzia sous couvert scientifique. Six chercheurs originaires de 14 des pays africains traversés se sont plongés dans les archives, les carnets, auscultant les objets, se rendant sur les lieux des collectes pour interroger les populations. De fait, les dites collectes se sont souvent effectuées dans la douleur, des achats avec tromperie sur la valeur, sous contrainte de l'administration coloniale qui accompagne la mission lors de ces étapes. Cette contre-enquête a permis aux chercheurs africains d'accéder à des sources jusqu'alors inaccessibles. La moitié des 3600 objets collectés par la mission l'ont été au Mali. Le Mali qui a dressé une liste et réclame à la France la restitution de 81 d'entre eux.
Isabelle Chenu. Et parmi les objets qui sont exposés au Quai Branly, 228 d'entre eux ont été collectés au Cameroun. Hugues Eumène est justement le directeur du Musée National du Cameroun, co-commissaire de l'exposition au Quai Branly. Il a pu avoir accès à une trentaine de ces objets, des objets de pouvoir comme des casques ou des boucliers. Et il faut, selon lui, oui, revoir la façon de les présenter, ces biens qui ont été acquis dans des heures sombres.
Lorsque nous regardons les fiches, achats, cadeaux, et le mot cadeau qui pose des problèmes, il faut décoloniser certaines appellations. Ouais, certains objets ne sont pas des poupées. Parce que ce ne sont pas des poupées, ce sont des divinités. Ce sont des objets rituels. Et qui est objet rituel ? On ne peut pas faire un cadeau, on ne vend pas des objets rituels. Ce sont des captations, bien évidemment, des captations coloniales. Il y a un bouclier de guerre et un casque de guerre. Parce que selon l'administration coloniale, il y avait certains chefs qui étaient très forts. Pour les atteindre, il fallait prendre des objets de pouvoir. Pour déposséder ces chefs, les rabaisser. Le mérite aussi de cette contre-enquête, c'est d'avoir eu accès à certains objets. Et c'est ce que nous demandons à l'administration française. Laissez-nous avoir accès aux réserves pour faire des recherches, pour contribuer à constituer la mémoire collective de certains peuples et de certaines communautés d'Afrique. Parce que la question qui se pose, ces objets reviennent quand ? Qu'est-ce que ces objets font ici ? Au moment où certains États ont besoin de cet objet pour refaire leur histoire.
Hugues Eumène, directeur du Musée National du Cameroun, pour refermer notre dossier. Notre matinale continue bien sûr sur RFI. Vous retrouvez tout de suite Andréane Mélard.